Говорит Москва.
Il faut juste qu'on les sorte, les croix. Sortons les croix. Je veux dire, ok, et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, c'est la laïcité. Bah, peut-être c'est la laïcité, mais pas chez moi. Allez hop, je sors ma croix. Et puis, il y en a un qui va faire ça, il va être sanctionné. Mais s'il y en a 10, 20, 30, 40, 50, 100 catholiques qui font ça, ils pourront pas tous les arrêter. Je pense que le fond de l'affaire, vous l'avez dit très justement, c'est qu'on est isolé et il faut en revenir encore à ça. Il faut refaire des communautés et des communautés où la foi et les valeurs partagées ne sont pas que de surface. Je veux dire vraiment des gens avec qui vous êtes sur la même ligne. Et ça, c'est aussi l'imposture de notre société de dire la diversité est une chance, la diversité est une force. Non, la force, la vraie force, c'est 10, 15 personnes soudés, unis, qui se font confiance et qui sont exactement sur la même ligne et qui avancent comme un seul homme. Et ça c'est une vraie force. C'est pas la diversité. Et il faut que les catholiques, dans leur paroisse, dans leur famille, dans leur réseau d'amis, fassent ça. Et je vous l'accorde, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile parce que le système fait tout pour diviser les gens.
Bonjour à tous, chers amis. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce podcast de rentrée où certains peut-être l'ont reconnu, en tout cas ses fans, en tout cas l'auront reconnu. Il s'agit de comment j'ai oublié son nom tout d'un coup. Non, c'est bon. Stanislas Berton, qui vient nous, qui a répondu favorablement à notre invitation, mon invitation d'entretien. Et donc Stanislas Berton vient nous parler pendant un peu plus d'une heure de son travail, de sa vision aussi pour notre pays, de sa voilà, c'est un échange de vues, un échange d'opinions que j'espère vous trouverez intéressant. Et c'est en tout cas ce que je vous propose pour ce podcast de rentrée. Alors, quelques nouvelles. Bon, d'abord, certains se sont émus suite à l'article que j'ai écrit concernant le fait que, voilà, j'avais fait une petite expérience sociologique dans un hôpital de Moscou. Je vais super bien. Voilà, je vais au mieux. Je suis en super méga giga forme, ça va très bien. La médecine russe est efficace. Donc, merci en tout cas de vos témoignages d'amitié, d'affection. C'est extrêmement aimable. Mais ça va vraiment ça va vraiment, vraiment au mieux. Donc, voilà, je ne peux pas me plaindre. Grâce au ciel, je vais bien. Voilà, c'est pas encore pour cette fois. Ensuite, concernant les évolutions du podcast, notamment la publication sur d'autres plateformes et tout. Pour l'instant, je ne dis rien, on travaille et on vous donnera des informations quand le travail sera accompli. Pour moi, c'est pas simple parce que techniquement, je suis un peu une quiche, donc c'est un peu compliqué, mais je fais de mon mieux. En attendant, j'espère que vous trouverez en tout cas cet entretien intéressant. Si tel était le cas, ça peut arriver, eh bien, n'hésitez pas en tout cas à le relayer sur vos réseaux, voilà, X, Telegram, Facebook, enfin, tout ce qui existe. N'hésitez pas à le relayer. C'est la seule récompense de ce site, c'est d'être visité, d'être lu, et surtout de servir de plateforme d'échange. Je remercie, je le fais pas assez, les fidèles parmi les fidèles qui régulièrement postent des commentaires. Certains postent des commentaires après absolument tous les articles et tout ce qui sort. C'est vraiment extrêmement sympathique à eux. Je les remercie. Je lis tout. Je ne réponds pas toujours, des fois parce qu'il n'y a pas lieu, des fois parce que j'ai pas le temps, mais je lis absolument tout très attentivement. Alors encore merci. Et moi, je vous retrouve tout de suite. Eh bien, Stanislas Berton, bonsoir et merci beaucoup de votre présence, surtout que ça s'est organisé très vite. Vraiment, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui un petit peu l'évolution. Alors, vous avez 40 ans, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages. On peut citer donc 4 volumes d'essais. Hein, L'homme dans la cité, c'est ça, je crois que ça s'appelle.
L'homme et la cité.
L'homme et la cité. Donc ça, c'est en 4 volumes qui se lisent, je crois, indépendamment.
Tout à fait.
Voilà. Vous avez La France retrouvée, Lettre à ma sœur.
Oui, alors ce sont deux livres différents. Il y a La France retrouvée et il y a Être français, lettre à ma sœur, en
Être
effet.
français, lettre à ma sœur, voilà, c'est ça, exactement. Alors, qui est cette sœur à qui vous avez eu besoin d'écrire?
Ben c'est ma jeune sœur et qui j'ai écrit ce livre, c'est mon premier livre, hein, et c'est elle d'ailleurs qui a un peu tout déclenché. Elle est partie à l'étranger, elle s'est expatriée parce qu'elle avait vraiment de très mauvaises opportunités en France à sa sortie d'études, non pas par manque de qualité et de compétences de sa part, mais à cause du marché du travail français, en plus dans un secteur bien particulier, où on lui a fait comprendre qu'on préférait payer des stagiaires 300 ou 400 euros plutôt que d'embaucher quelqu'un de compétent et le payer au vrai prix. Donc ça lui a pas plu, elle est partie, et un jour elle m'a dit, au cours d'une conversation, alors peut-être pour me provoquer, parce qu'elle est peut-être un peu taquine, elle m'a dit, voilà, moi je ne me sens plus française, mais plutôt citoyenne du monde. Et ça, voilà, ça a déclenché quelque chose en moi et ça a donné naissance à mon premier livre. J'ai écrit le premier livre quasiment d'un jet suite à cette conversation. Et voilà, c'est ça qui a déclenché tout le processus d'écriture. Je ne me suis pas arrêté depuis. Donc, vous voyez, on dit que les voies du Seigneur sont impénétrables. Bah, il a fallu que ma sœur citoyenne du monde déclenche quelque chose pour que je me mette à écrire. Donc, vous voyez, c'est toujours amusant.
Et depuis, comment a évolué la relation? Elle a lu, j'imagine, ce livre et d'autres?
Oui, bien sûr. Alors, on n'a pas du tout, on a des très bonnes relations, hein, indépendamment de cet aspect-là. Elle vit toujours à l'étranger. Et en fait, elle est, je pense, comme beaucoup de Français qui sont expatriés, c'est-à-dire que la France lui manque. Elle reconnaît la France, voilà, sa beauté, son raffinement, le fait qu'on a une vraie douceur de vivre. On y mange bien, on trouve encore, voilà, des vrais artisans, voilà, du savoir-faire, du terroir. Mais le problème, c'est que les opportunités que notre pays offre, notamment à des gens ambitieux, travailleurs, voilà, qui se donnent du mal, qui veulent faire des choses dans leur vie, ne sont pas les mêmes opportunités qu'on peut avoir dans d'autres pays, notamment dans le monde anglo-saxon, en Asie. Enfin, je pense s'il y a des expatriés qui écoutent ce podcast, je pense qu'ils verront très bien à quoi je fais allusion, puisque voilà, il y a beaucoup de gens qui partent parce qu'ils se sentent bloqués en France avec les problèmes de voilà, les postes sont de moins en moins nombreux, ça fonctionne à l'ancienneté, il y a des rigidités. Enfin, pour vous donner un exemple, pour rester dans le cas de ma sœur, comme c'est quelqu'un qui est très compétent, qui bosse, qui a beaucoup de dynamisme, en quelques années, elle a obtenu un poste à l'étranger et il lui aurait fallu 20 ans de carrière pour avoir la même chose en France, vous voyez?
Et c'est des
Donc,
traîtres, les expatriés, à la patrie, ou c'est comment vous vivez les choses? Comment vous voyez ça?
Ben alors, moi, je vais vous dire que c'est une inquiétude que j'ai actuellement. Je réfléchis beaucoup à ça. Je pense que tout va se jouer pour la France dans les 10-20 prochaines années. Et que si, et je pense qu'on en reparlera dans cette émission, s'il n'y a pas un sursaut, et notamment un sursaut spirituel de la France, je pense que les Français finiront comme le peuple hébreu dans la Bible, c'est-à-dire qu'ils seront dispersés. Il y aura toujours des Français, ça existera, mais ils vont perdre leur pays, ils vont être dispersés. Il y aura une diaspora française dans le monde entier, donc peut-être en Russie, en Asie, en Chine, aux États-Unis, mais je ne suis pas sûr que la France telle qu'elle a existé pendant, on va dire, 1500, 2000 ans, continuera d'exister sur cette terre française qui est la terre, en tout cas, moi je peux le dire pour moi, de mes ancêtres, parce que moi je suis Lorrain. Du côté de mon père, j'ai retrouvé des ancêtres jusqu'au XIVe siècle dans le nord de la Lorraine et alsacien du côté de ma mère. Donc voilà, je suis vraiment enraciné dans l'est de la France où j'habite toujours aujourd'hui. Mais je crains vraiment ça, je crains vraiment. On le voit que la France est vraiment dans une situation d'effondrement là, qui s'est accélérée au cours, on va dire, depuis que le général de Gaulle a quitté le pouvoir, mais avec une accélération encore plus forte depuis la prise du pouvoir par Emmanuel Macron en 2017. Et moi, c'est vraiment ce que je crains. Et je pense que ça, c'est ma grille de lecture, que c'est vraiment la conséquence de notre apostasie et de notre impiété. La France était vraiment une nation qui avait un rôle très spécifique dans le plan de Dieu. Hein. C'est le pays avec le plus d'apparitions de la Vierge Marie, premier pays à avoir un roi, enfin, la première nation, si je fais un anachronisme avec Clovis, à se convertir. Voilà, avec le plus qui a compté le plus grand nombre de missionnaires, qui a eu les monastères, qui a eu les cathédrales. On avait vraiment une place et bah, je pense que depuis la Révolution française, on a perdu. Il y a une apostasie du peuple français. D'ailleurs, la Révolution française vient, je dirais, l'aboutissement d'un processus. C'est-à-dire qu'on voit déjà plusieurs décennies avant la Révolution française qu'il y a une impiété dans les classes supérieures, dans la bourgeoisie, dans la noblesse, il y a le libertinage, les idées des Lumières. Donc tout ça sape en fait la matrice catholique de la France. Et moi, je crains qu'aujourd'hui, on soit au bout de ce processus. Et la Bible est très claire, hein. Vous lisez la Bible, c'est déjà dans les psaumes. Les peuples qui sont infidèles à Dieu, qui se détournent de Dieu, bah, sont punis, sont dispersés. C'est ce qui s'est passé avec les Hébreux. Les Hébreux ont été infidèles. Les prophètes leur ont dit arrêtez. Il y a eu de nombreux prophètes, je pense à Ézéchiel, à Jérémie, qui ont dit aux Hébreux revenez dans les voies droites du Seigneur. Ils n'ont pas écouté. Le Messie est arrivé. Il y a une grande partie des Juifs qui ne l'ont pas reconnu, qui l'ont même rejeté. Et donc le peuple hébreu a été frappé, a été dispersé, le temple a été détruit en 70, donc, par les légions romaines. Donc moi je crains que la France, si la France poursuit dans cette voie de l'impiété, elle va subir exactement le même sort, parce que Dieu est constant, Dieu récompense les peuples qui lui sont fidèles et punit les peuples qui lui sont infidèles. Donc moi j'essaye avec mes propres moyens et mes petits moyens d'expliquer ça aux Français. J'écris des livres qui l'expliquent, je fais des interventions, je suis présent sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. Il y a d'autres catholiques peut-être moins connus ou moins médiatisés qui disent la même chose, mais je pense que les Français n'ont pas conscience de la gravité de ce qui se passe. Vraiment, la France est en train de sortir de l'histoire et je pense qu'elle est en train de perdre le rôle, d'abandonner le rôle que Dieu lui avait donné. Et tout est. Là, j'invente rien, hein. C'est pas les idées de Stanislas Berton. C'est dans le testament de Saint-Rémy qui, voilà, dès le 5e siècle, dit de tête la France sera puissante et prospère dès qu'elle sera tant qu'elle sera fidèle à la foi romaine, mais sera rudement châtiée dès qu'elle sera infidèle à sa vocation.
Oui, mais alors
Voilà,
est-ce
donc là,
qu'aujourd'hui il y a des
on est
prophètes?
rudement châtié. Voilà.
Alors est-ce qu'aujourd'hui justement il y a des prophètes pour intervenir et puis pour mettre en garde? Parce que bon, je veux pas vous faire de peine, mais l'Église catholique aujourd'hui connaît quand même certains errements. On a vu récemment un pèlerinage LGBT à Rome. Enfin bon, on a vu quand même des choses qui pose un peu problème, et on peut admettre que certains ne savent plus trop à quel sens se vouer, surtout dans un système médiatique, etc. Enfin, si, un système social aussi où l'Église est quand même loin, et elle est aussi loin des gens.
Oui, alors avant même l'Église, je dirais que c'est Dieu qui est loin des gens. C'est-à-dire qu'il y a toute cette idée de transcendance et surtout, même au-delà de la transcendance, cette idée qu'il y a une vérité objective. Parce qu'aujourd'hui, bon, je ne pense pas que c'est à vous que je vais l'apprendre, mais on est dans une société à la fois matérialiste, donc qui rejette le surnaturel, et dans une société de la subjectivité, même pour être très précis, du nominalisme. Alors pour nos auditeurs, le nominalisme, c'est l'idée que c'est les mots qui produisent la réalité. Ça, c'est un courant philosophique qui émerge, je vais peut-être dire des bêtises, mais je crois que c'est autour du 16e siècle ou peut-être un peu avant. Et en fait, c'est l'idée que c'est par le langage qu'on crée le réel. Donc vous voyez, on est complètement là-dedans, hein. C'est le transgenre, c'est ça. Il n'y a plus de vérité biologique, il n'y a plus le sexe, l'homme, la femme. Je crée mon identité sexuelle par mon langage parce que je m'identifie comme. Et on retrouve la même chose avec la géopolitique. On va décréter que la Russie perd la guerre, la Russie est isolée. alors qu'en fait, elle remporte des victoires, elle fait une alliance internationale qui est voilà, le Sud global, les BRICS, etc. Mais les Occidentaux pensent que par la magie du langage, on va changer le résultat d'un rapport de force objectif. Donc on est dans ça, on est dans cette idéologie qui est le nominalisme. Et en fait, l'antidote à ça, c'est vraiment le christianisme, parce que le christianisme postule qu'il y a une vérité, c'est le Christ, hein. Il y a Dieu, voilà, il y a le surnaturel. Et après, au-delà de ça, il y a l'Église. Et l'Église, c'est une structure qui a une hiérarchie, qui a des dogmes, qui a des rituels, qui a une doctrine qui est fixée. C'est pas comme les protestants où il y a autant de chapelles que d'églises. C'est pas comme l'islam qui a pas d'autorité religieuse centrale. C'est pareil, chaque imam qui fait un peu ce qu'il veut. On a cette structure. Et donc, en fait, cette structure, elle a toujours dérangé. Elle est attaquée. Et vous avez raison, l'Église a été complètement infiltrée. En tant que catholique, on ne peut que le constater. Et alors, il ne faut pas le jeter avec le bébé avec l'eau du bain. C'est que l'Église a été infiltrée aussi parce qu'elle a été rudement attaquée. Moi, je renvoie toujours sur ces questions au grand classique hein, qui s'appelle La Conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus. Monseigneur de Lassus écrit au début du XXe siècle et montre que dès le XVIIIe, il y a des forces très puissantes, la franc-maçonnerie, la secte qu'on appelle les Illuminés, la haute vente, donc la haute franc-maçonnerie internationale, qui va infiltrer l'Église et qui va la détruire de l'intérieur. Et je parlais tout à l'heure de l'impiété de la noblesse française, de son apostasie, c'est aussi dans le clergé. Moi, je viens de Lorraine, à Lunéville, on a une statue de l'abbé Grégoire, qui est un des révolutionnaires. L'abbé Grégoire était très probablement franc-maçon, enfin, c'est même quasi sûr. Vous allez
Oh, c'est
d'ailleurs sur sa
certain, oui.
statue à Lunéville, vous voyez frère en humanité. Ou je sais pas quoi. Voilà, donc
Oui,
mais
d'ailleurs,
l'Église, elle est infiltrée.
il avait été honoré à l'époque du bicentenaire par la Mitterrandi.
Absolument.
Oui, donc
Et il est du
on
coin de
s'en
chez
souvient.
moi, il est dans le Lunévillois, d'un petit village à côté de Lunéville, je sais plus lequel. On peut vérifier très facilement sur Wikipédia.
Oui,
Et
ça se trouve.
en fait, ouais, il a sa statue à Lunéville. Donc, vous voyez, l'infiltration du clergé, c'est pas nouveau. Hein. Au 18e, on y est déjà. Hein. Donc, et même avant, il y a eu même dans des monastères, il y a eu des trucs sur. Enfin, je veux dire, l'Église a toujours été attaquée. Donc là, il y a une victoire qui a été remportée très importante avec une accélération à partir là aussi de l'après-guerre. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens ont du mal. Alors moi, le conseil que je donne, c'est d'être fidèle à la tradition de l'Église, parce qu'il y a une rupture qui a eu lieu avec notamment, alors on dit le Concile Vatican II, mais c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, moi, je suis un catholique traditionnel, donc j'essaye de me mettre dans l'état d'esprit et de suivre la doctrine qui a été celle de l'Église pendant la majorité de son histoire, pendant quasiment 2000 ans d'histoire. Et par exemple, pour les gens qui voudraient se former et comprendre de quoi je parle, moi je leur conseille de lire le Catéchisme de Saint Pie X. C'est un petit livre, ça fait 60-80 pages, ça se trouve pour 10 euros sur Internet, ou même en PDF, vous pouvez le trouver sans problème. Et vous verrez, c'est d'une limpidité, d'une clarté, tout s'enchaîne, tout est clair, tout est cohérent. Et voilà, et vous avez la doctrine catholique, et je pense que c'est une doctrine qui est saine, je pense que c'est vraiment la doctrine qui nous sauve et qui sauve l'homme, et qui peut nous sauver même collectivement. Mais après, c'est vrai que tout est fait pour détourner les gens de cette doctrine. Donc moi, je comprends aussi les gens, entre les scandales dans l'Église, entre les prélats qui prêchent de tout et son contraire, vous parliez des LGBT, on parle espèce de relativisme général qui est un peu présent partout, bah, il faut essayer de trouver des points d'appui. Et je pense que le point d'appui, c'est ça, c'est l'Église de la messe de toujours. Voilà la doctrine qui a été défendue par l'Église pendant pratiquement 2000 ans. Et bien sûr, la parole de Dieu qui est dans la Bible avec voilà, le Christ, c'est pas un hippie baba cool. Je veux dire, le Christ, il a jamais dit, il a prêché la compassion, il a prêché la miséricorde, mais il n'a jamais prêché la tolérance. Moi, je dis souvent ça aux gens, je vous mets au défi de trouver un seul moment dans la Bible où le Christ demande d'être tolérant.
Alors, la
Le
tolérance, c'est des
Christ,
maisons pour ça.
voilà, c'est Claudel qui disait ça exactement. Le Christ sauve et pardonne à la femme adultère, mais
Mais
à
il lui dit ne
l'après, il
pêche
dit
plus.
va et ne pêche plus. Il dit pas continue comme ça, c'est très bien. Je t'aime tel que tu es. Non, il lui dit, il veut. Le Christ appelle. J'ai eu un très beau texte que j'ai traduit récemment qui dit là où le christianisme nous demande une transformation, la contre-église demande la tolérance, que les gens restent dans leur péché. Et donc ça, C'est, et bien sûr, quand vous dites ça, on vous dit, mais vous êtes homophobe, vous êtes misogyne, vous êtes je ne sais pas quoi, enfin, tous les mots, tous les épithètes qui servent à vous discréditer et à vous mettre dans le camp du mal, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une démarche de charité et d'amour. C'est pas, je crois que, en tant que chrétien, on ne peut pas décemment dire aux gens, restez dans des choses qui vous font du mal et qui déplaisent à Dieu. Donc, c'est une vraie démarche d'amour et de charité. Mais bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est pas du tout perçu comme ça parce que les gens, pour eux, les aimer, c'est leur dire oui, surtout reste comme ça et ne change rien. Donc ça, je pense qu'au contraire, c'est une grave erreur, mais c'est
Oui,
un autre sujet.
l'Église t'accepte tel que tu es et Dieu t'aime tel que tu es et surtout ne change rien. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure vous parliez des ruptures et bon pour moi la rupture bon beaucoup pensent à Vatican II comme rupture et pour moi la vraie rupture en réalité c'est Vatican I, c'est-à-dire l'abandon de la Sainte Inquisition par exemple qui était le la base et qui continue d'être la base de notre droit et un certain nombre de choses qui ont été comme ça un peu abandonnées. Mais si je reviens à aujourd'hui, j'ai bien compris et je crois que tout le monde a bien compris que vous espérez en Dieu et c'est très bien parce que nous aussi. Donc ça, c'est une très bonne chose, mais en César ou dans les divers Césars qui aujourd'hui mènent à des degrés plus ou moins divers la danse, est-ce qu'il y a quand même des choses à espérer? Donc vous êtes au courant, ça ne vous a pas échappé, le 20 janvier dernier est entré en fonction, après son investiture, le président Donald Trump, qui a dit un certain nombre de choses qui, il y a encore, je sais pas moi, 10 ou 15 ans, auraient été considérées comme absolument naturelles, notamment qu'il n'existe que deux sexes, le sexe masculin et le sexe féminin. Il a notamment bon, remis comme ça un certain nombre de vérités et ainsi a suscité quelques espoirs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un certain nombre de politiques, d'administrateurs des États ont une forme de salut en main?
Oui, alors bon, je ne vais pas employer le mot salut parce que salut, c'est, il n'y a qu'un seul sauveur, mais en tout cas, des gens je dirais, qui défendent leur peuple et qui mènent le combat dans le domaine temporel. Hein. Vous savez, j'ai toujours en tête cette phrase de Sainte Jeanne d'Arc qui disait les gens d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Donc il faut qu'il y ait des gens qui se battent sur le terrain, dans le monde, pour que Dieu puisse donner la victoire. Donc oui, alors si parmi vos auditeurs, il y a des lecteurs de mes livres, notamment les essais, j'ai écrit notamment à partir des volumes 2, 3 et 4, ma thèse. Ma thèse, c'est qui est le fruit de mes recherches. C'est qu'il y a aujourd'hui ce que j'appelle une alliance antimondialiste. Alors, pour comprendre l'alliance antimondialiste, je vais juste faire une petite parenthèse sur le mondialisme. Le mondialisme, en fait, il y a un système de pouvoir qui est international, je dirais, qui s'est structuré au fil des siècles et qui a atteint, je dirais, une grande puissance au début du XXe siècle. C'est un système qui tire son pouvoir notamment de la banque. Je vais donner un exemple. C'est la création de la Fed en 1913 aux États-Unis. Et ça permet par exemple de financer la Première Guerre mondiale. Ça permet plein de choses. Ça ouvre la porte à tout le chaos.
Une partie de la révolution bolchevique.
Voilà, exactement. Il y a le financement de la révolution bolchevique par les banquiers de Wall Street, la banque Cohen-Loeb avec les Rothschild en coulisses. Enfin, et on va dire, il y a un cartel bancaire avec des grandes familles. On pense aux Rothschild, il y a les Warburg, après il y a les Rockefeller qui se greffent là-dessus. Après, il y a des noms beaucoup moins connus parce même dans les gens de l'ombre, il y en a qui sont connus comme les Rothschild et d'autres qui le sont moins, qui restent vraiment en coulisses. Mais en tout cas, il y a ce cartel international qui, en plus de vouloir le pouvoir financier et politique, a un projet quasiment eschatologique et un projet de destruction des peuples et des nations. Donc je simplifie. Alors les gens, souvent il y a un premier point de blocage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, ça n'existe pas, il y a des intérêts convergents, mais il n'y a pas une espèce d'intelligence centrale, un comité central. Alors moi, ce que je peux vous dire en toute bonne foi, c'est que pour avoir fait mes recherches sur ce sujet, oui, je pense qu'il y a une intelligence globale qui pilote ce projet qu'on appelle le mondialisme ou le nouvel ordre mondial. J'ai trouvé une citation dans le cadre de mes recherches que j'utilise en début de mes conférences ou que j'ai mis dans l'introduction de mon volume 4. C'est une citation de James Warburg qui dit en 1950, 1950 devant le Congrès américain, il y aura un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir si nous l'aurons par le consentement ou par la
Oui,
conquête.
c'est ça, ou par la
Voilà.
conquête, exactement.
Voilà,
Alors,
donc on a ça. Donc, alors, une fois qu'on a posé ça, j'ai fait cette petite parenthèse pour poser un peu le décor. Ma thèse, et là aussi j'y suis arrivé par mes recherches, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes dans la politique, dans l'armée, dans le renseignement, même dans la société civile, qui connaissent ce projet de nouvel ordre mondial, qui ont une idée de la feuille de route, parce qu'en plus, la feuille de route, ils l'ont écrite. Ils l'ont dite, ils l'ont publiée, qui connaissent la chronologie, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un projet qui devait aboutir à l'horizon 2020-2030, donc là on est en plein dedans. Et en fait, ces gens-là, qui avaient conscience de ce projet, eh bien, ont essayé de le faire capoter. Et la thèse, alors là, je vous résume vraiment à marche rapide tout ce que j'ai développé dans mes livres, donc ceux qui voudront en savoir plus, je les renvoie vraiment au volume 2, 3 et 4 des essais. En fait, ma thèse, c'est qu'il y a une coalition internationale qui s'est constituée. Alors, et cette coalition, elle incorpore l'Amérique de Donald Trump, c'est-à-dire Donald Trump, mais aussi tout un État profond patriote qui est derrière lui. Donc, ça peut aller des militaires, des gens de la sphère économique patriote, des hauts fonctionnaires, des gens de la société civile, des shérifs, des juges, etc. Donc, il y a un bloc patriote autour de Donald Trump, on va dire un État profond patriote. Il y a l'État profond russe, qui est incarné, donc, entre guillemets, la figure de proue, c'est Vladimir Poutine, mais là encore, il n'est pas le seul, il y a tout plein de gens derrière lui. Il y a la Chine de Xi Jinping, là encore, l'opposition qu'on retrouve en Chine, c'est les nationalistes, qui sont plutôt incarnés par la faction de Xi Jinping, et la faction mondialiste, qui était celle de Hu Jintao, qu'on appelait la faction de Shanghai, pardon. Et donc ça, c'est les trois forces principales, Chine, Russie, Amérique trumpienne, on va dire, pour simplifier. Et il y a je dirais, des sous-parties qui se sont greffées. Alors j'ai trouvé des choses assez incroyables. Moi, je mets dans cette alliance antimondialiste, je mets par exemple les talibans. Les talibans qui ont mis fin à la culture de l'opium, qui ont mis fin aussi à tout ce qui était pédophilie, parce qu'en Afghanistan, c'était très répandu, ça s'appelait le Bashar-bazi. Et on sait à l'inverse que l'OTAN était venue en Afghanistan, et quand l'OTAN était en Afghanistan, la culture de l'opium avait explosé, et c'était
Absolument.
tout. Tout ça s'était exfiltré par une base du Kosovo, un camp de l'OTAN, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était au Kosovo. Et en fait, les talibans et eux, fermaient les yeux aussi sur la pédocriminalité en Afghanistan. Et les talibans sont arrivés, ont dégagé tout ça quand ils sont revenus. Il y a ça, il y a aussi la Corée du Nord. La Corée du Nord je dirais, je pense que quand il y a eu ce grand moment diplomatique en 2017, quand Trump a fait toute sa tournée diplomatique, il y a que des choses qui ont bougé avec la Corée du Nord. Donc il y a tous ces groupes-là, peut-être qu'il y a les BRICS, je pense qu'on peut mettre là-dedans avec l'organisation de la coopération de Shanghai, l'Inde maintenant, puisqu'on voit qu'il y a des liens étroits, ce qui n'était d'ailleurs pas évident entre la Chine, la Russie, l'Inde, enfin tout ce que les Russes appellent le Sud global. Et en fait, je pense qu'il y a une coopération
Mais alors,
entre tous ces pays.
excusez-moi, dans ce que les Russes appellent le Sud global, il y a quand même des choses assez hétérogènes. Par exemple, aujourd'hui, les BRICS, c'est aussi Lula contre Bolsonaro, par exemple.
Oui, absolument. Alors, tout à fait. Alors, après, vous avez tout à fait raison d'apporter ces nuances. Ce que je dirais, c'est que, si vous voulez, il y a un ennemi commun qui est le mondialiste qui cherche à instituer une gouvernance mondiale, à piller la planète et à mettre tout le monde en esclavage. Voilà. Et au profit d'une oligarchie, on va dire, anglo-protestante, pour la banque et la City de Londres, pour
Oui, là je vous
simplifier.
rejoins.
Et donc, si vous voulez, en fait, au sein de tous ces pays qui font cette coalition antimondialiste, il y a des rivalités au sein de chaque État, entre différentes factions à l'intérieur des États qui se battent entre elles pour le pouvoir ou pour des lignes idéologiques différentes. Et il y a aussi des rivalités entre grandes puissances géopolitiques. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'Amérique de Trump, par exemple, c'est un empire qui est en train de s'effondrer. Là, vous parliez de la prise de fonction de Trump en 2024, début 2024. On est dans un.
25,
Y a,
25.
2025, oui, pardon, il était élu en 2024 et prise de poste en début 2025, il y a le démantèlement de l'USAID. L'USAID, c'était le bras armé Alors du mondialisme américain, mais quand même par extension de la superpuissance américaine. Donc moi, je pense, mon analyse, c'est que le démantèlement de l'USAID, ça peut être dans le cadre d'un deal avec la Russie et la Chine en disant, bah voilà, j'ai cet instrument que j'utilisais pour faire de l'ingérence un peu partout dans le monde entier, bah, j'accepte l'émergence d'un monde plus multipolaire, même si je dois me couper d'un membre qui m'était bien utile. Et en échange, vous les Chinois, vous détenez une grosse partie de la dette ou de dollars, bah, vous pourriez faire crasher l'économie américaine. Très facilement, bah, vous nous laissez atterrir en douceur. Vous voyez, je pense qu'il y a des tractations de ce type-là. Et en fait, tout l'enjeu, c'est quelle va être la zone d'influence de quel bloc? C'est-à-dire jusqu'où va aller la zone d'influence américaine, jusqu'où va aller la zone d'influence russe, jusqu'où va aller la zone d'influence chinoise. Et autour de ça, vous avez les BRICS, qui sont un espèce de forum où un peu tout le monde essaye de se mettre d'accord et d'aller vers un monde. Et là, je pense qu'en tout cas, les Russes et les Chinois sont sincères quand ils disent ça. Vers un monde où on est plus dans une logique de gagnant-gagnant, on n'est pas dans un pouvoir hégémonique qui impose sa volonté à tout le monde. Mais ce qui ne veut pas dire que les États renoncent à défendre leurs intérêts. Et ce qui ne veut pas dire non plus, parce que ça, souvent, les catholiques français font l'erreur, ça ne veut pas dire non plus que ça va être favorable au catholicisme. Par exemple, la Chine a une ligne très dure envers le catholicisme. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas dans l'alliance antimondialiste. Vous voyez, c'est des sujets, il faut bien distinguer chaque sujet au cas par cas. Voilà.
Oui, d'autre part, j'ajouterais à ce que vous venez d'exposer de manière extrêmement brillante, je vous félicite. J'ajouterais quand même une chose, c'est que moi aujourd'hui, alors là pour le coup c'est une thèse personnelle hein, qui sort d'un certain nombre de réflexions. Moi je crois qu'il y a plus d'entité les États-Unis, je crois qu'il y a une entité le monde anglo-saxon, c'est-à-dire États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Grande-Bretagne, etc. Et la chose qu'il me semble qu'il faut prendre en compte, c'est que dans le camp, on va dire pour simplifier, dans le camp mondialiste, il y a aussi des dissensions et des divergences.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est-à-dire que
Tout
les
à
gens ne
fait.
sont pas d'accord. Les gens ne sont pas d'accord sur. Vous avez parlé tout à l'heure d'une feuille de route. Alors certes, il y a une feuille de route avec effectivement une gouvernance et un gouvernement mondial. Mais le gouvernement mondial, de toute façon, il existe de facto parce que, je veux dire, l'ONU, c'est le gouvernement mondial. Vous avez le BIT, c'est le ministère du travail du gouvernement mondial. L'OMS, c'est le ministère de la santé du gouvernement mondial. Et c'est
L'UNESCO,
comme
c'est
ça
la
qu'il se
culture,
voit.
etc. Oui, tout à fait.
L'UNESCO, c'est le ministère de la Culture, et j'en passe, et des meilleurs. Et eux, c'est comme ça qu'ils se voient. C'est-à-dire qu'ils considèrent, à partir du moment où vous considérez que le droit international est supérieur aux législations nationales et que c'est aux législations nationales de s'adapter au droit international, à partir de là, vous avez un gouvernement mondial. Alors, qui marche plus ou moins bien, parce que c'est quand même un gros truc, c'est un machin malencontreux, comme disait le général de Gaulle, mais c'est un gros truc. Et heureusement, ça marche mal, mais n'empêche que c'est déjà là, en réalité. Je me souviens qu'il y avait un triste sire qui voyait ce gouvernement mondial à Jérusalem. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais je pense effectivement qu'aujourd'hui, il y a des entités supranationales ethniques, et notamment comme par exemple les Anglo-Saxons. Aujourd'hui, voilà, ce ne sont pas les États-Unis qui gouvernent seuls. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des dissensions, puisqu'on sait que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont en train enfin, disons, je dirais pas ils sont en train de se fâcher, mais enfin, on assiste à des difficultés. Mais enfin, le fait est qu'aujourd'hui, les Britanniques, par exemple, n'entreraient jamais en guerre sans l'autorisation des États-Unis.
Oui, absolument. Alors, il y a plusieurs. Je voudrais apporter quelques précisions sur ce que vous venez de dire. C'est que, en fait, si vous voulez, il y a cette oligarchie mondialiste, mais qui parasite les peuples. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple est un instrument pour faire avancer ses buts. Et en fait, le noyau vraiment historique du pouvoir mondialiste, c'est vraiment la City de Londres. C'est vraiment le. Et après, au début du XXe siècle, ils se sont déplacés parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, même l'Empire britannique. Avec le Commonwealth, etc. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore le Commonwealth quand ils ont commencé, mais c'était insuffisant, qu'il fallait la base des États-Unis, il fallait la population et la base de ressources américaines. Donc ils se sont déplacés aux États-Unis, il y a Washington, il y a la création du Council on Foreign Relations, qui est le ministère des Affaires étrangères du mondialisme, et en 1920. Et donc si vous voulez, il y a les États-Unis. Et là, moi, ce que j'observe aux États-Unis, c'est qu'en fait, les patriotes américains le disent, ils disent, on est en train de mener notre deuxième guerre d'indépendance, c'est-à-dire qu'on est en train de se libérer de la tutelle de l'oligarchie britannique qui contrôlait l'Amérique à partir de la City de Londres. Et donc ça, ils en ont une conscience très très précise, très aiguë, en tout cas les vrais patriotes américains. Et donc je pense que là, vraiment, il y a vraiment une guerre qui est menée contre le mondialisme. Et on voit aussi, vous avez raison, ce gouvernement mondial, il existe déjà. Et là, par exemple, quand les États-Unis ou d'autres pays disent, voilà, on va quitter l'OMS, on ne reconnaît plus l'OMS, c'est on est en train dans un retour à la souveraineté des États. Donc, et en même temps, on est en train de nettoyer ce que Donald Trump appelait nettoyer le marais, mais Vladimir Poutine a fait la même chose quand il revient en 2000 et qui dit aux oligarques qui dégagent notamment, je crois que c'était, comment il s'appelle cet oligarque, pas Kolomoïski, Khodorkovsky, qui dit en fait derrière la tentative de prise de contrôle de UCOM, en fait il y avait les intérêts Rothschild, c'était juste un écran de fumée pour Rothschild. Donc Vladimir Poutine en fait dégage Rothschild de la Russie, et c'est ça qui fait que maintenant, depuis lors, la Russie est vraiment dans le collimateur. Donc vous voyez, il y a vraiment cette volonté pour les peuples de reprendre leur souveraineté. On peut dire la même chose en Chine, hein. La Chine, il y a des mesures sociétales qui sont prises pour lutter contre tout ce qui est voilà, subversion wokiste, etc. Et ce qui était intéressant en Chine, c'est qu'il y a cette bascule à peu près, je crois, en 2010. Xi Jinping arrive au pouvoir et quelques années plus tard, alors je crois que c'est 2018-2019, il y a George Soros qui chantait les louanges de la Chine, qui dit tout d'un coup, Xi Jinping est un nouvel Hitler, c'est le pire ennemi des sociétés ouvertes. Donc on voit tout de suite quand il y a ce basculement. Mais après, oui, je suis d'accord, c'est voilà, là on est obligé de tracer le tableau, brosser le tableau à grands traits, mais oui, il y a des dissensions internes. Je pense que, par exemple, au sein des mondialistes, il y a ceux qui sont les jusqu'au-boutistes, qui veulent aller vraiment dans la guerre totale. Il y a ceux qui se disent, on va peut-être temporiser. Il y a peut-être ceux qui se disent, bon, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée. Il faudrait peut-être revenir en arrière. Et puis, si ça peut nous permettre de conserver encore, de ne pas tout perdre, ça serait peut-être aussi une bonne idée. Il y en a peut-être qui retournent leur veste, qui changent de camp. Enfin, voilà, c'est d'une grande complexité. Il faut toujours aussi, je dis toujours, garder un peu d'humilité. Parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux, nous ne sommes pas dans les états-majors, nous ne sommes pas dans les
Alors ça, je
services.
crois que, excusez-moi, ça, je crois que c'est une chose sur laquelle j'aimerais vraiment m'arrêter pour le souligner, c'est que très souvent, en fait, on ne prend pas en compte un fait qui me semble évident, c'est que nous n'avons pas toutes les informations.
Ah mais c'est certain, c'est certain. Et il y a une chose même que je vous dirais, c'est que toutes les informations que les analystes comme nous, les observateurs extérieurs, même si on bosse beaucoup, moi je travaille beaucoup en sortie ouverte, je lis beaucoup de choses, il faut garder en tête que toute information qui sort, c'est parce qu'on veut qu'elle sorte. Les informations vraiment secrètes, je veux dire, elles ne sortent pas. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que le grand public ou même les gens comme nous, on est toujours en aval de la prise de décision. Ce que j'ai souvent dit dans mes livres ou même dans mes conférences, c'est que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec tous ces bouleversements, je pense sincèrement que c'est le fruit de décisions qui ont été prises il y a 10-15 ans déjà, même plus. Tout ce plan de guerre contre le nouvel ordre mondial, ou même le projet du nouvel ordre mondial dans sa phase, dans ce qu'on traverse actuellement, c'est des choses qui ont été décidées il y a 10, 20, 30 ans. Je renverrai aux auditeurs qui seraient intéressés par ça, lisez les protocoles de Toronto de Serge Monnat, qui était un journaliste d'investigation. Il a publié ça en 95. Donc vous voyez, ça illustre totalement ce que je suis en train de vous dire. C'est publié en 95 et c'est le fruit de réunions qui ont eu lieu à Toronto. Alors de tête, je crois, c'est 67 et 85. Donc vous voyez, on est entre 30, 20 ans et 10 ans après les décisions. Il arrive à avoir, par je ne sais quel biais, peut-être que c'est quelqu'un qui a fait fuiter, quelqu'un des services de renseignement qui lui a donné ça. Lui a été assez courageux pour le publier, d'ailleurs ça lui a coûté sa vie. Et lisez les protocoles de Toronto de Serge Monnat, vous comprenez toutes les Trente Glorieuses, vous comprenez pourquoi il y a eu les Trente Glorieuses, vous comprenez pourquoi il y a eu la création de la classe moyenne, vous comprenez pourquoi il y a eu la société de loisirs, et vous comprenez que dès les années 60, cette prospérité était programmée pour se terminer actuellement, ce qu'on est en train de vivre avec l'appauvrissement appauvrissement de l'Occident, la contraction du crédit, le chômage, etc. C'était prévu. Donc, vous voyez, il faut vraiment être humble parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Et je pense que les gens qui ont les cartes en main savent qu'il faut qu'ils se taisent et ils ne racontent pas parce que sinon, ils sont éliminés ou en tout cas, ils sont dans le pire des cas, ils sont éliminés. Et dans le meilleur, entre guillemets, ils sont exclus des groupes de vrais décideurs et ils n'ont plus accès à l'information. Donc, je pense qu'il faut en effet, et c'est pour ça que moi, je suis assuré parce que je fais mon travail sérieusement et j'essaye de recouper, mais je suis prêt à admettre que je me suis trompé et je déplore que parfois sur ces questions-là, il y a beaucoup d'émotions et il y a beaucoup de gens qui parlent vraiment avec autorité en disant voilà, Trump c'est ceci, Poutine c'est cela, ou c'est pas ceci, ou c'est pas cela, alors qu'en réalité, on peut avoir des présupposés, on peut avoir des faisceaux d'indices, mais dans le fond la vraie fond de l'affaire, on ne le connaît pas. Voilà.
Est-ce que vous pensez que nous sommes aujourd'hui à la veille d'un conflit armé impliquant des Français?
Alors ça, vous parlez de guerre civile ou de mobilisation en
Non, moi
Ukraine
je parle de mobilisation, puisqu'il paraît qu'on va. Et puis il paraît que la Russie ne doit pas, ne peut pas gagner, donc il paraît qu'on va aller se battre contre la Russie. On a 3 jours de munitions, donc on a 3 jours pour battre les Russes, apparemment. Donc.
Oui, écoutez, voilà, impossible n'est pas français, comme disait Napoléon,
C'est ça.
non, mais vous voyez, on est encore ce que je vous disais au début de cette émission, c'est qu'on est purement dans le langage. On n'est pas dans la réalité, on est dans le monde créé par le langage. Donc, alors, déjà, première chose, tous les gens bien informés savent qu'il y a des Français qui sont en Ukraine. C'est un secret de Polichinelle. Les gens dans l'armée française le savent. Je pense qu'il y a des journalistes français qui le savent. Les Russes le savent, bien évidemment. Les Américains le savent. Tout le monde le sait qu'il y a des instructeurs, qu'il y a des gens, qu'il y a des soldats. Alors, est-ce que c'était des mercenaires? Est-ce que c'était des soldats? Mais en tout cas, il y a des troupes françaises. J'ai des rumeurs qui disent qu'il y a beaucoup de généraux français qui ont été tués en Ukraine par des frappes. Et que les Russes le savent, qu'on dit à leurs veuves de se taire là-dessus. Clairement, la France est co-belligérante dans cette affaire, et je pense qu'on doit vraiment remercier les Russes, je dirais, la
Alors justement, j'allais vous
modération.
dire qu'est-ce qui fait que les Russes ont la patience de ne pas nous considérer comme des co-belligérants.
Mais parce que je pense que les Russes, en fait, c'est ça qui montre que les Russes sont capables de faire la distinction entre la mafia mondialiste qui dirige actuellement la France et le peuple français. Et comme ce sont des, ils ont, les Russes ont une vraie élite, ils savent que si les Russes frappaient la France, par exemple, je sais pas, en détruisant, en mettant la France à genoux, en frappant, en envoyant quelques missiles hypersoniques sur les postes électriques, sur des centrales nucléaires pour mettre le pays à l'arrêt, etc., sur des lignes ferroviaires, tout ce que ça ferait, c'est que ça renforcerait la légitimité du pouvoir actuel qui pourrait dire, regardez, les méchants Russes nous font la guerre, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de pain dans les boulangeries, c'est la faute des Russes. Donc là, je pense que les Russes ont plutôt une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'ils sont en train je dirais, de saigner les stocks d'armes, de saigner les troupes, de laisser Emmanuel Macron aller dans son délire d'être de plus en plus impopulaire, et en fait de laisser le fruit pourrir sur l'arbre et il finira par tomber de lui-même. Et en même temps, je pense que les Russes prouvent que ce ne sont pas des psychopathes, ils vont pas faire payer pour les Français. Un gouvernement qui est quasiment illégitime, on peut même se poser la question de la légitimité des victoires successives d'Emmanuel Macron.
Moi, je ne me
Les
la pose
Français le
pas.
détestent. Donc voilà, les Français le détestent. Donc pourquoi les Français paieraient pour Emmanuel Macron et pour sa clique de mafieux? En fait, je pense que les Russes savent que les Français sont les premières victimes d'Emmanuel Macron.
Non, mais les Russes, de la même manière que les Russes font la différence entre le peuple ukrainien et
Bien sûr.
le régime de Kiev. Et justement, alors ça va peut-être faire sauter en l'air certaines personnes ce que je vais dire, mais les Russes y vont avec beaucoup, beaucoup de modération. Je veux dire, ça serait les États-Unis à leur place, ils auraient fait le tapis de bombe et Kiev serait en cendres. Je dirais
Absolument.
aujourd'hui,
Absolument.
ce n'est pas le cas. Mais alors, aujourd'hui, dans la France actuelle, quelle est la place justement des chrétiens, en particulier des catholiques, c'est-à-dire comment aujourd'hui ils peuvent se faire entendre, parce que la parole catholique aujourd'hui est quand même très difficile à entendre, elle est très difficile à elle essaie d'émerger et au milieu d'une espèce de cafouillage, j'ai envie de dire au milieu de Netflix, quoi, quelque part. Et puis dès qu'elle émerge, elle est en général complètement écrasée. On a vu par exemple les difficultés qui sont faites à Civitas, par exemple.
Oui, absolument. Bah, alors déjà, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est que déjà, ça part de nous, catholiques. C'est déjà à nous d'être des
Qu'est-ce qu'on
témoins.
fait de pas assez, nous, catholiques?
Bah, déjà, alors j'ai trouvé une chose. Alors, si vous avez suivi mon travail, moi, il y a un phénomène qui m'a beaucoup intéressé ces dernières années, dès 2024, pendant la campagne présidentielle américaine. C'est tous les appels du pied de Donald Trump en faveur du catholicisme. Ça, pour moi, c'est un bouleversement majeur. L'Amérique est un pays historiquement protestant, hein, fondé par des puritains et des francs-maçons. Et en fait, il y a toujours eu une méfiance vis-à-vis du catholicisme, de Rome, avec, on disait, voilà, le pape, les catholiques sont des agents du pape qui veulent attaquer la jeune République. Et là, à partir de 2024, Donald Trump fait des appels du pied à l'électorat catholique. Il poste la Sainte Vierge, il passe l'Ave Maria dans ses meetings, il nomme des catholiques à des postes importants, Vance, Rubio, etc. Donc je me disais, bon, c'est de la stratégie électorale. Et puis plus les choses avancent, plus je dirais, il va fort dans là. Il a encore posté, je crois que c'était aujourd'hui ou hier. C'était la nativité de la Vierge Marie. Il a encore mis Marie, reine de la paix, etc. Il avait fait une adoration eucharistique à Mar-a-Lago. Enfin, il y avait beaucoup de signaux très forts. Et donc, moi, ça m'a beaucoup interpellé parce que si l'Amérique devient catholique, ça change la donne. Et j'ai vu encore, comme je me suis intéressé à ça, j'ai un peu creusé les statistiques et il y a des conversions. Le protestantisme est en train de décliner aux États-Unis et ce, d'autant plus que le protestantisme américain est hyper sioniste. Les évangéliques sont soutiens à Israël à 100%. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont tellement outrés par ce qui se passe à Gaza, par ce génocide, par ces bombardements, cette famine, les massacres, etc. Et ce soutien inébranlable des évangélistes et des protestants à Israël fait fuir tous les gens du protestantisme pour les ramener vers le
Alors
catholicisme.
ça, c'est très intéressant parce que moi, je viens du courant évangélique. Je suis un ancien évangélique, donc je connais très très bien le. Enfin, très bien. C'est difficile de le dire. Je connais très bien parce qu'il est tellement
Oui, il y a tellement de
multiple et
chapelles.
tellement diversifié que c'est quand même compliqué. Enfin, la tendance que vous décrivez existe et elle est effectivement très prégnante. Et là, je me suis souvent posé la question de savoir comment ils survivent, parce que ça doit être quand même compliqué d'aller expliquer aux gens que voilà, Netanyahou est un type formidable et qu'en fait il aime les chrétiens, etc., etc. Je veux dire, parce que c'est très compliqué. Effectivement, les attachements à Israël sont extrêmement prégnants.
Et donc, voilà, et donc pour tout à fait. Alors pour revenir à pourquoi je vous parlais de ça, parce que donc je me suis intéressé à la pratique du catholicisme aux États-Unis. Je suis tombé sur un chiffre qui m'a vraiment sidéré. Est-ce que vous savez quelle est la. Alors c'est déclaratif, mais combien de catholiques américains se disent pratiquants, c'est-à-dire vont à la messe quasiment tous les dimanches ou presque?
Alors, je pense qu'ils doivent être plus nombreux en proportion que chez nous,
Ouais.
parce que c'est le catholicisme. Je veux dire, on n'est pas catholique pour rien dans le monde anglo-saxon. On est catholique par alors souvent par tradition. Hein, c'est les Irlandais, une partie des Latino-Américains, pas tous, une partie. Il y a tout ça, mais être catholique dans le monde anglo-saxon, c'est quelque chose de voilà, c'est un marqueur.
Exactement, et vous avez tout à fait raison. Alors, le chiffre est quand même très important, il est de 29%, ce qui est quand même beaucoup. À titre de comparaison, en France, on est à 5% hein, de gens qui se déclarent pratiquants, donc c'est-à-dire aller à la messe tous les dimanches parmi les catholiques. Par curiosité, je me suis dit, bon, Vatican II est passé par là, il y a quand même eu tout ce phénomène de déchristianisation. Je vais aller voir avant Vatican II, en 1961. Combien il y avait de catholiques qui allaient à la messe tous les dimanches en 1961? Et ben on était à 21%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2024, aux États-Unis, il y a plus de gens, de catholiques qui vont à la messe tous les dimanches qu'il y en avait en France en 1961. Donc je pense que qu'est-ce qu'on peut faire? Ben c'est déjà, si on est catholique, c'est pratiquer. C'est aller à la messe, mais c'est voilà, recevoir les sacrements, se confesser, vivre catholiquement, parce que ce n'est pas juste les formes extérieures, c'est-à-dire c'est sur la morale sexuelle, c'est sur le mariage, c'est sur la famille, ça peut même être dans le monde du travail, hein, comment on traite, si on a des salariés ou des collaborateurs, comment on les traite. Ça peut même aller, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle E. Michael Jones, qui est un penseur catholique américain, qui a écrit un très bon livre sur l'usure. Parce que je rappelle que l'usure, on parlait du pouvoir des banques, l'usure,
Absolument.
c'est pas quelque chose qui a toujours été dénoncé par l'Église. Aujourd'hui, on est dans un système où pour la moindre chose, que ce soit pour le monde de l'entreprise, que le monde pour acheter une maison, etc., on est dans une logique d'usure. Alors, l'usure, il y a des critères précis. Qu'est-ce que l'usure? À partir de quel taux d'intérêt c'est considéré comme de l'usure? Mais on est tout le temps à emprunter avec intérêt. Et je pense à ça parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai découvert récemment. En France, n'importe qui veut, par exemple, créer un commerce ou quoi que ce soit, acheter une maison, bah, emprunte. Dans l'est de la France, il y a beaucoup de Turcs. Il y a une communauté turque très importante en Alsace et en Lorraine. Bah, en discutant avec des Turcs, des chefs d'entreprise, des gens comme ça, ils disent, ah ben non, eux, ils sont jamais dans le circuit bancaire. Ils se prêtent de l'argent entre eux. Ils se prêtent de l'argent en tant que communauté. Donc, ils ne sont pas du tout dans le circuit bancaire. Et je me dis, c'est quand même fort de café. Les Turcs échappent, entre guillemets, à l'usure parce qu'ils se prêtent de l'argent en tant que communauté. Nous, les chrétiens, on devrait faire la même chose. Un catholique français ne devrait jamais aller emprunter à la banque. Il veut acheter sa maison, c'est ses frères chrétiens qui lui prêtent. D'ailleurs, je pense que ça fonctionnait comme ça. Au début, les premiers chrétiens devraient fonctionner comme ça.
Oui,
Donc,
bah,
je prends
fallait
cet
les trouver
exemple.
aujourd'hui, les chrétiens, pour vous prêter de quoi acheter votre maison.
Voilà, non, mais vous voyez, non, mais c'est, j'avais dit ça dans une de mes conférences il y a 2 ans à Versailles. Je disais aussi, c'est pareil, l'hospitalité. J'avais dit pour plaisanter, un catholique devrait jamais dormir à l'hôtel. Dans n'importe où il doit être, il devrait y avoir un frère catholique pour lui ouvrir sa maison et l'accueillir. Vous voyez, on a perdu ce sens, mais plus largement ce sens communautaire. En France, on est atomisé. On est en lien avec l'État, c'est-à-dire qu'en fait, les solidarités organiques ont été se sont substituées. L'État s'est substitué aux solidarités organiques. C'est l'État qui s'occupe de nous quand on est malade, quand on est au chômage. En fait, notre interlocuteur, c'est l'État. Et on a perdu ce sens de la communauté. Et ça, c'est encore plus vrai pour les catholiques. Je pense que les catholiques doivent devenir plus communautaires. Je pense qu'ils doivent être réellement catholiques, c'est-à-dire vivre vraiment comme des catholiques dans tous les aspects de leur vie et surtout qui témoignent de leur foi. Parce que ça, c'est le grand piège qu'on leur a tendu, c'est de dire, ah, votre foi, elle est privée, alors c'est la laïcité, attention, vous sortez votre foi du placard le dimanche, vous la mettez pour aller à la messe et quand vous rentrez chez vous, eh bien, vous la remettez dans le placard avec les habits du dimanche. Et ça, c'est une erreur complète. La foi, c'est quelque chose de public, c'est ça qui structure la vie collective. Et il faut assumer cette foi publiquement. Alors après, bien sûr, il faut le faire avec intelligence, avec tact. Il ne faut pas être dans la provocation, mais il faut être ferme et rappeler qu'une société dirigée par des lois et des mœurs chrétiennes, eh ben, c'est pas la même chose que la société dans laquelle on vit actuellement, avec l'euthanasie, l'avortement, le divorce, voilà, l'absence de morale ou de contrainte sexuelle, l'exploitation, parce qu'il y a aussi cette idée de justice sociale qu'il faut pas laisser la gauche, dont il faut pas laisser la gauche s'emparer. Donc voilà, il y a un boulevard en fait aujourd'hui pour les catholiques, mais il faut que les catholiques français se décomplexent, témoignent du Christ, et surtout, je pense que il y a peut-être un côté un peu bourgeois dans le catholicisme français. Et en fait, il faut pas avoir peur de redevenir d'une certaine manière des parias. C'est-à-dire, le Christ, il est pas venu pour. Je dirais, il a dit, je suis venu à pas apporter la paix, mais le glaive. Et il dit, vous aurez contre vous les gens de votre propre maison. Il faut pas avoir peur d'être mal vu parce qu'on est catholique. Il y a
Oui, parce que,
une belle
excusez.
citation de l'écrivain anglais, il n'était pas catholique, il était anglican, c'est C.S. Lewis, c'était l'ami de Tolkien qui lui était catholique, qui disait, si vous voulez une religion pour être tranquille, c'est pas le christianisme. Je veux dire, le christianisme, c'est pas le petit confort bourgeois, on va à la messe, etc. Le Christ, il doit choquer, le chrétien doit choquer. Je crois que c'est saint Paul qui nous dit scandale pour les juifs et folie pour les païens. Le chrétien doit être fou aux yeux des païens.
Oui, cela dit, vous dites, il y a un boulevard, enfin au milieu de ce boulevard, il y a quand même la persécution, parce que la laïcité, c'est quand même une forme, c'est quand même une forme de persécution. Je trouve qu'on ne parle pas assez, justement, on ne prononce pas assez le qualificatif, enfin, le mot de persécution. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous allez vous heurter, et dans la société morcelée telle qu'elle est, vous n'avez pas le droit de sortir une croix.
Alors, je vais vous dire, je pense que ça, c'est plus parce que à cause de la faiblesse des catholiques. Parce que en fait, déjà, peut-être que ce que vous dites aurait été vrai je dirais, il y a peut-être 50, 60 ans, mais aujourd'hui, on est dans un état de déliquescence totale, de lâcheté, de faiblesse. En fait, je pense que si les, par exemple, aujourd'hui, les églises sont attaquées, si, c'est parce que les catholiques ne résistent pas. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Les musulmans. Par exemple, si vous êtes catholique, vous êtes obligé, avant de vous marier à l'église, de passer devant la mairie, d'être marié civilement. Vous ne pouvez pas dire, je fais d'abord le mariage religieux. Un prêtre peut aller en prison. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de catholiques qui le savent. Un prêtre qui marierait religieusement des gens qui ne se sont pas mariés avant civilement peut encourir de la prison et des amendes, et c'est très lourd. Par contre, moi, j'ai parlé de ça à des musulmans. Ils ont dit, pouah, mais ça, on s'en fiche. Nous, on passe devant l'imam. L'imam, il nous marie, et puis quand ça nous arrange, on fait le mariage civil. Donc, vous voyez, les musulmans, ils s'en fichent. En fait, on est dans une situation aujourd'hui où, en fait, l'État ne tient que parce que les gens ont encore l'idée d'un État qui était fonctionnel et qui était fort. Alors oui, il peut agir, il peut de temps en temps faire un exemple, mais en fait, l'État aujourd'hui, il est en déliquescence totale. Quand il y a eu les confinements, c'était pareil. Les braves Français catholiques sont rejetés, cloîtrés chez eux, ont mis le masque et tout. Et on le sait aujourd'hui, les policiers avaient des consignes de ne pas faire trop respecter les confinements dans les cités. Donc, il faut juste qu'on les sorte, les croix. Sortons les croix. Je veux dire, ok, et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah, c'est la laïcité. Bah, peut-être c'est la laïcité, mais pas chez moi. Allez, hop, je sors ma croix. Et puis, il y en a un qui va faire ça, il va être sanctionné. Mais s'il y en a 10, 20, 30, 40, 50, 100 catholiques qui font ça, ils ne pourront pas tous les arrêter.
Ah, mais
Donc, dites qu'ils veulent
ça c'est
peut-être.
toujours l'effet, ça c'est vrai pour tout, c'est toujours l'effet de masse. Oui, moi si j'étais sûr d'être accompagné, je serais beaucoup plus fort. Mais il se trouve que l'État, vous savez, je pensais à quelque chose de complètement différent. Moi, j'avais un rêve, c'était la grève de l'impôt.
Ah oui.
Il suffit qu'on fasse la grève de l'impôt. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, de tels moyens sont mis en œuvre pour vous isoler socialement, pénalement, etc., si vous payez pas l'impôt, et pour vous réprimer, que c'est quand même très compliqué. Je me fais un peu l'avocat de ceux
Mais
qui...
vous avez non mais vous avez raison sur des choses comme ça, sur la grève de l'impôt, mais vous voyez, sur les petits gestes du quotidien. Vous voyez, qu'est-ce qui empêche, par exemple, je prends un exemple, un cas très concret, un geste très simple. Qu'est-ce qui empêche des gens, par exemple dans le cadre de leur travail, de faire le bénédicité, de bénir leur repas? Je veux dire, voilà, vous bénissez votre repas, à la limite, vous le faites pour vous, vous êtes à la cantine, voilà, vous bénissez votre repas. Moi, je le fais quand je suis en déplacement, même des fois, je fais des conférences, il y a des repas après. Je dis aux gens, bah, écoutez, voilà, moi, je suis catholique, je bénis mon repas. Ceux qui veulent se joindre à moi, bah, le font, et puis ceux qui ne veulent pas, ils restent assis, et puis voilà, il n'y a aucun problème. Mais je le fais publiquement, et souvent, d'ailleurs, les gens sont très contents. Les gens me. Alors, peut-être qu'après, les autres, ils osent pas, mais peut-être ça les a heurtés, j'en sais rien. Mais si vous voulez, on peut faire ça. Qu'est-ce qui empêche des élèves? Vous voyez, il y a les élèves musulmans disent, moi, je ne veux pas manger de porc à la cantine. Bah, qu'est-ce qui empêche les élèves catholiques de faire un bénédicité avant de commencer leur repas à la cantine? J'avais lu, je crois, il y a quelque temps dans un journal, je crois que c'était un collège ou dans la France profonde, où le principal s'était plaint parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de croix, chez ses élèves. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Je veux dire, il faut faire ces petits gestes. En fait, la résistance passive, elle passe par des petits gestes. J'ai envie de dire, il faut presque faire un équilibre, un calcul, c'est-à-dire des gestes qui imposent le christianisme dans l'espace commun, mais en même temps pour lesquels la répression serait trop coûteuse pour le peu que c'est. C'est-à-dire, vous savez, la logique du système, c'est pas de vagues. Donc, c'est sûr que si vous faites des gros trucs, si vous appelez voilà, à faire tomber la République ou que sais-je, à faire la grève de l'impôt, oui, ça c'est sûr, là, le système, il se dit, il faut pas que je laisse passer ça parce que sinon, là, je perds tout. Mais sur les petits gestes du quotidien où on sape un peu le truc, les gens, ils vont dire, ah bon, je vais pas faire des histoires, je vais pas aller mettre tout en branle-bas de combat pour ça, etc. Puis petit à petit, et c'est ce que les musulmans ont très bien compris, c'est ce qu'ils font. Donc,
Oui.
je pense qu'il y a, il y a ces gestes-là, mais je pense que le fond de l'affaire, vous l'avez dit très justement, c'est qu'on est isolé et il faut en revenir encore à ça. Il faut refaire des communautés et des communautés où la foi et les valeurs partagées ne sont pas que de surface. Je veux dire vraiment des gens avec qui vous êtes sur la même ligne. Et ça, c'est aussi l'imposture de notre société de dire la diversité est une chance, la diversité est une force. Non, la force, la vraie force, c'est 10, 15 personnes soudés, unis, qui se font confiance et qui sont exactement sur la même ligne et qui avancent comme un seul homme. Et ça c'est une vraie force. C'est pas la diversité. Et il faut que les catholiques, dans leur paroisse, dans leur famille, dans leur réseau d'amis, fassent ça. Et je vous l'accorde, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile parce que le système fait tout pour diviser les gens. Voilà, il l'a fait avec le Covid dans les familles, il le fait au niveau politique, il le fait au niveau culturel. Et en fait, on cherche toujours à diviser les gens plutôt que de leur faire prendre conscience que c'est l'union qui fait la force et que, il faut parfois un peu aussi de la discipline, c'est-à-dire que il faut, bah, parfois on n'est pas d'accord, il y a des petites choses qui peuvent nous irriter, etc. Bon, bah, c'est comme dans les familles, on peut passer sur certaines choses, mais il faut qu'on fasse bloc collectivement. Et là encore, il y a des communautés qui sont très fortes pour ça. Quand il s'agit de faire front contre l'ennemi commun, bah, on oublie les divergences et les conflits internes et puis on fait front ensemble. Donc je pense qu'il faut faire ça. C'est en fait il y a toute une anthropologie à reconstituer qui a été perdue sur un siècle à peu près.
Ouais, mais alors là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'effectivement, le problème, il y a aussi un problème de matérialisme. Vous savez, un jour, j'étais à la sortie de la messe et j'étais avec un ami prêtre, qui venait de dire la messe. Et puis, je sais plus, on devait attendre quelqu'un, ma femme pour aller chercher la voiture ou peu importe. Donc, on était dehors sur le parvis. En bas des marches, et puis les gens passaient. Au revoir, mon père. Bon dimanche, mon père. Et j'ai excusez-moi, mais il n'est pas tout seul, mon père. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un côté confort extrême où on a beaucoup de mal à se soucier de son prochain. Donc, la solidarité et l'intervention massive, je pense qu'il va falloir que les biens matériels se raréfient un peu plus, je pense.
Oui, et puis il y aura une forme de sélection, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent en ont conscience. On va vers des moments certainement de crise et des moments difficiles avec justement en effet un confort matériel qui va se réduire. Et en fait, ceux qui vont survivre, les gens qui vont survivre ou qui vont traverser un peu mieux ces écueils, bah, c'est ceux qui auront fait ça justement, qui auront. Papacito disait de manière très célèbre, il faut monter une équipe. Ben voilà, c'est ceux qui ont monté des équipes qui vont s'en sortir. Mais de la même manière que de manière beaucoup plus triviale, aujourd'hui, les gens qui vont tout simplement être dans cette continuité, qui vont fonder des familles, avoir des enfants, ben c'est ceux qui auront échappé à la propagande woke, à la propagande féministe qui dresse les hommes contre les femmes ou dit aux gens il faut pas faire d'enfants pour sauver la planète ou que sais-je. Ben voilà, il y a déjà cette première barrière. Il y a des gens qui malheureusement ne pourront pas fonder de famille parce qu'ils se sont fait laver le cerveau par l'école, par les médias. Donc déjà, c'est ceux qui auront eu un esprit critique par rapport à ça, ou la chance d'être dans des familles où on leur a expliqué les choses dès le plus jeune âge. Bah déjà, eux, voilà, eux, le futur, il va se construire avec eux et les autres, bah, n'auront pas d'avenir. Donc vous voyez, c'est chaque époque. Je suis convaincu que chaque époque a des épreuves. Alors nous, c'est des épreuves qui sont plus psychologiques, qui sont de l'ordre du mental. Nos grands-parents, moi j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents qui avaient connu la guerre avec ses privations, ses morts. Moi, mon grand-père m'a raconté comment il a vu des camarades de classe mourir sous ses yeux dans un bombardement en 40.
Oui, surtout
Voilà,
vous,
c'est des.
géographiquement, moi j'étais au sud-ouest, donc évidemment il y en avait beaucoup moins, mais c'est vrai que vous
Ah
étiez
bah
quand même
oui,
très
bah je peux vous
exposé,
dire,
oui.
et puis la Lorraine on a pris cher, hein. La Lorraine,
Ouais, c'est ça, ouais.
une terre de marche. On a toujours été coincé entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Donc toute l'Europe nous est passée dessus en pillant, en brûlant. Il y a une période dans l'histoire de la Lorraine, je crois que c'est au XVIIe siècle, où la Lorraine avait perdu 70% de ses habitants. Et certains villages, jusqu'à 90% de leurs habitants. Donc vous voyez, les Lorrains qui restent, ils ont survécu à tout ça. Vous voyez, donc voilà, chaque époque a ses difficultés, mais il faut continuer à croire en la vie, il faut se battre, il faut espérer, et puis voilà, il faut être armé, et il faut continuer à croire en le Christ, en son Église, et il faut pas se laisser abattre, parce que ça, je le dis souvent, le premier aspect de la guerre, c'est de casser le moral, et on est face à des gens qui sont les champions pour casser le moral. Donc il faut vraiment donner de l'espoir. Je pense que à court terme, on va vers des moments difficiles, mais à long terme, le mondialisme va être vaincu. Et il faut se projeter vers cet espoir. Il faut continuer à fonder des familles. Il faut continuer à croire en la victoire. Il faut continuer à se battre et à œuvrer chacun de notre manière pour un monde plus juste, un monde meilleur, un monde où il y a plus cette culture de mort, cette culture d'exploitation, de destruction, de matérialisme. Et puis on continue, on avance. Chaque jour, on avance. Vous voyez, vous faites votre podcast, votre site. Moi, je fais mes livres. Il y a des gens, il y a des boulangers qui se lèvent le matin pour nous faire du bon pain. Il y a des agriculteurs voilà, qui s'occupent de leurs troupeaux. Et puis la vie continue. Et il faut se battre et il faut pas perdre de vue tout ça. Et il faut surtout pas les laisser rentrer dans notre cerveau et nous pourrir le cerveau et nous plonger dans le désespoir. Ça, je pense que on est dans une époque où beaucoup de choses poussent au désespoir. Et c'est justement là où c'est la grande force du chrétien, c'est que le chrétien, il a cette espérance.
Oui, mais là, par exemple, en ce moment est en débat l'euthanasie. C'est bientôt une réalité. On se souvient, il se trouve que sur le site que j'anime, le blog que j'anime depuis 2012, début 2013, je ne me souviens plus exactement, dans ces eaux-là, non, 2012. Le blog que j'anime avait été très impliqué concernant l'affaire Vincent Lambert, par exemple.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment en vrai danger, quoi. Et c'est vrai que je partage votre enthousiasme et votre appel à l'espérance. Et votre appel à ce que Dieu nous trouve fidèles aussi, je pense que ça aussi c'est quelque chose de capital. Moi j'ai toujours peur que Dieu ne me trouve pas fidèle, que la pression, que ceci, que cela. Donc voilà, je demande dans la prière à être gardé fidèle, surtout préservé fidèle. Mais c'est vrai que c'est quand même un sacré combat et je conçois. Peut-être un peu contrairement à vous, mais je conçois que parfois on ait envie de baisser les bras parce que quand on se ramasse dans les médias, ce qu'on se ramasse aujourd'hui. Alors heureusement, il y a des médias alternatifs comme vous, par les livres que vous écrivez, les conférences que vous donnez, etc. Mais ça reste quand même compliqué.
Alors ça, je vous rassure, moi aussi, il m'arrive d'avoir des moments où j'ai
Ça me
envie de baisser
rassure.
les bras, mais je pense que quand on a une parole publique et qu'on a la chance, justement, on est dans un monde qui est tellement surchargé en raison de désespérer que, en tout cas, moi, c'est la... Vous parlez d'être fidèle, j'ai l'impression que je suis fidèle à ce que Dieu attend de moi, en essayant de donner cet espoir et cet optimisme aux gens, parce que on a l'impression que voilà, le monde est toujours peint en noir. Je n'ignore pas les difficultés, je n'ignore pas les nombreuses raisons qu'il y a de s'inquiéter, mais il faut quand même essayer de surmonter ça. Et alors, je ne suis pas du tout un grand fan de Napoléon, loin de là, mais je trouve qu'il avait une très belle formule où il disait: on ne conduit un peuple qu'en lui montrant un avenir, un chef est un marchand d'espérance. Et je pense qu'on manque aujourd'hui justement de ces chefs qui savent tracer un avenir, qui savent projeter les gens, même au niveau de la famille, de l'entreprise, de la nation, vers cette espérance. Et je pense que ce qui fait la force de chefs comme Donald Trump, comme Vladimir Poutine, c'est que justement, ils montrent cette espérance à leur peuple et ils ont l'impression, alors peut-être vraie ou fausse, que les choses s'améliorent, qu'on va vers du mieux. Et je pense qu'en tout cas, dans le cas de la France, qui est un pays d'ailleurs qui est souvent assez pessimiste, il y a cette nécessité vraiment de voir les choses sous un jour positif et d'appeler à l'espérance. Il y a un côté très français, c'est d'être dupe de rien. Voilà, on est un peu blasé. On veut toujours voir le montrer qu'on n'est pas un peu naïf, contrairement aux Américains qui sont très enthousiastes. On veut pas faire les enfants un peu naïfs. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin un peu de cet optimisme naïf. Parce que c'est vraiment l'antidote à ce cynisme et à ce désespoir de notre époque. Mais moi aussi, il m'arrive, vous voyez, il y a des jours, voilà, on a tous des coups de mou, on a tous des jours où c'est plus difficile que d'autres. Moi, ça ne fait pas aussi longtemps que vous que je fais ce que je fais, mais tous les jours, je fais de la réinformation, j'ai écrit beaucoup de livres, je me dis des fois, les livres que j'écris, j'aurais pas le système qui m'invisibilise et je pourrais vendre 10 fois plus de livres, etc., et faire le même travail, mais avec beaucoup plus de fruits. Mais voilà, mais il faut pas se laisser abattre par ce genre de choses, et il faut vraiment, je pense qu'en tant que chrétien, on doit avoir cette joie, on doit avoir cet optimisme. Et on doit avoir cette espérance. Et je pense que les gens, vous parliez tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire rayonner ce christianisme, bah, que les gens puissent dire, bah voilà, les chrétiens, au milieu de tout cet océan de noirceur, ils ont été une lumière, ça nous faisait du bien de les écouter, ils nous parlaient du Christ, ils nous parlaient de l'espoir, ils nous parlaient de la joie, même dans les difficultés, ils étaient heureux, même dans la tragédie. Ils continuaient de chanter des psaumes, des hymnes, ils étaient fidèles. Et je pense que ça, c'est. Je pense que Dieu attend vraiment ça de nous aujourd'hui.
Alors, en parlant d'optimisme, puisque nous arrivons au bout de cet entretien, que je vous remercie encore de m'avoir accordé, en parlant d'espérance et d'optimisme, on m'a demandé de vous poser la question, donc je vous la pose. Comme vous savez, eh bien, j'enregistre depuis Moscou, et on m'a demandé si vous viendriez nous voir à Moscou.
Alors, avec grand plaisir, j'ai eu l'occasion d'aller en Russie en 2016. Alors, j'ai fait un petit séjour, je suis allé uniquement, alors c'était uniquement touristique, je suis allé à Saint-Pétersbourg, donc c'est une ville que j'ai retrouvée remarquable, j'ai d'excellents souvenirs, ça m'a permis, je ne connaissais pas la Russie, ça m'a permis un petit peu, c'est une porte d'entrée dans la société russe, mais j'aimerais beaucoup connaître Moscou. Je pense, on m'a dit que c'était deux ambiances complètement différentes entre Saint-Pétersbourg et Moscou. J'ai vraiment envie de venir à Moscou. Alors, si je suis invité à Moscou, je viendrai avec grand plaisir. Alors, après, à organiser tout ça, mais j'aimerais vraiment beaucoup venir et découvrir, en tout cas, cette facette-là de la Russie. Et je pense qu'il y a beaucoup de liens à tisser entre la Russie et la France. Je ne sais plus qui disait ça, mais l'histoire des relations entre la France et la Russie, c'est vraiment des relations manquées. Il y a eu De Gaulle à un moment qui s'était rapproché de la Russie, et puis bon, ça a duré le temps qu'a duré De Gaulle, mais je pense que d'ailleurs encore, voilà, on revient aux États-Unis, vous voyez que Trump et Donald Trump et Vladimir Poutine ont fait vraiment une déclaration. Il y a eu cette visite de Donald Trump en Alaska, là, de Vladimir Poutine, pardon, en Alaska. Il y a vraiment une amitié américano-russe qui se crée. Je pense qu'il faut cette amitié franco-russe aussi. Et je pense
Ah mais là,
que nous
on n'a
sommes.
pas les, on n'a pas les effectifs, hein.
Non, mais écoutez, il faut commencer avec des petits groupes de pionniers. Voilà, et je pense que, en tout cas, moi, le peuple russe, le peu que j'en connais, c'est un peuple que j'estime. J'ai été, d'ailleurs, vous voyez, c'est pas un hasard. Mon premier livre s'ouvre par une citation de Dostoïevski. Moi, je suis un grand lecteur et j'ai toujours été frappé, vraiment, je dirais, j'ai toujours dévoré les grands écrivains russes. Je pense à Dostoïevski, je pense à Bulgakov, je pense à Gogol aussi un petit peu. Enfin, c'est vraiment, j'ai été cinéphile aussi, j'ai beaucoup aimé Tarkovski. Enfin, il y a vraiment des. Je pense que la Russie, le peuple russe est vraiment un grand peuple. Et voilà, et si je suis invité à Moscou, alors bien sûr, je viens avec plaisir. Après, voilà, il faut voir toute la logistique derrière un tel déplacement, mais surtout que c'est toujours un peu plus compliqué de venir de France maintenant jusqu'en Russie. Mais c'est avec grand plaisir, vraiment, je me réjouis et j'espère que nous aurons l'occasion, si ça se fait, de passer un peu de temps ensemble et de rencontrer la communauté francophone qui se trouve à Moscou.
Alors, écoutez, en tout cas, moi, je me réjouis si vous venez, et j'espère non seulement que vous rencontrerez la communauté francophone, mais plus encore que vous rencontrerez la communauté russophone, parce que elle aime la France. Et vous savez, bon là, ça va faire 3 ans que je suis à Moscou. Jamais je n'ai entendu quelque chose de déplacé sur la France, sur les Français, sur et pourtant il y aurait de quoi, parce que quand j'entends beaucoup plus de russophobie quand je vais en France que de francophobie quand je suis en Russie, j'en entends jamais.
Oui, ça m'étonne pas, mais je vais vous raconter une anecdote lors de justement de ce séjour touristique à Saint-Pétersbourg. Le dernier jour, quelques heures avant de prendre l'avion, je voulais ramener deux, trois petites choses, voilà, des souvenirs. Je voulais ramener de la vodka pour des amis. Et donc, je suis allé à un magasin c'était même une petite supérette. Voilà, j'ai essayé de trouver une vodka un peu qualitative. Et puis, on a acheté deux, trois choses comme ça, des spécialités qu'on pouvait ramener, qu'on pouvait avoir avec nous. Et puis, au moment à la caisse, donc je parlais avec la personne qui m'accompagnait. Puis, il y a une dame derrière nous qui nous dit en français, mais vous êtes français? Je dis, bah oui, madame. Elle dit, bah écoutez, prenez ma carte de fidélité, ça vous fera une réduction, parce que moi, j'adore la France. J'étais professeur de français, j'adore la France, la littérature française, etc. Donc, ça me fait plaisir si je peux vous faire économiser quelques roubles sur votre commande. Elle a demandé à la caissière si elle pouvait le faire. La caissière a bien volontiers accepté qu'elle nous prête sa carte de fidélité. Et on a eu une réduction. C'est quand même incroyable, quelques heures avant de prendre l'avion. Et à la fois, j'étais très touché et très ému par ce petit geste voilà, spontané et totalement gratuit d'une dame derrière nous dans la file de la caisse. Et en même temps, je me suis dit, mais il faut que la France soit digne de ça. Parce que voilà, c'est cette dame qui avait, je sais pas, elle était pas loin de la retraite ou à la retraite, elle avait encore cette image de la France d'autrefois, la France qui rayonnait par la culture, les arts, la science, par la politique. Et je me suis dit, mais la France doit rester digne de ça, digne de cet amour que les peuples, et notamment le peuple russe, lui a porté. Et en tout cas, à ma façon, si je peux contribuer à ça, eh ben, je souhaite le faire, et je souhaite vraiment, continuer à maintenir cette grandeur de la France.
Eh bien, écoutez, c'est tout le mal que nous vous souhaitons. En tout cas, sachez que si vous venez nous voir, alors c'est possible, hein, donc il y a des, bon, eh bien, il faut faire quelques petits vols d'oiseaux, un petit peu bien difficultés pour arriver, mais on y arrive. Tout est fait effectivement côté occidental pour qu'on soit dissuadé d'aller en Russie. Mais c'est vrai que j'attends avec impatience personnellement le retour des liaisons directes. Mais enfin bon, en tout cas, nous vous accueillerons, ça c'est certain, et j'espère que j'aurai le plaisir de vous faire rencontrer des Russes avec qui vous pourrez échanger.
Avec grand plaisir, et je me réjouis et je vous remercie encore de m'avoir invité dans votre podcast pour cet échange, voilà, qui a été très riche et j'espère très instructif pour nos auditeurs.
En tout cas, il l'était pour moi. Merci en tout cas d'être venu. Vous reviendrez?
Ah bah avec grand plaisir.
Eh bien, écoutez, rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Stanislas Berton. Et puis, bien entendu, je mettrai les liens vers vos livres, vers votre site, de manière à ce que nos auditeurs puissent avoir l'ensemble des informations et puissent éventuellement vous contacter.
Merci beaucoup, bonne soirée, monsieur.
À vous aussi.